Bonjour à tous et bonjour à toutes avec nous. On a le grand plaisir d'avoir une fois par an à peu près avec nous. C'est un plaisir. Le Rav Michael Zmerlal, le Dayan de la ville de Strasbourg. Bonjour monsieur le Dayan.
Bonjour Jean.
Je voudrais qu'on revienne juste sur une actualité qui a beaucoup fait parler cette année. C'est le Hérouv. C'est bon, le Hérouv à Strasbourg, il est cachère.
Grâce à Dieu, ça nous a demandé beaucoup de travail.
Ouais.
Beaucoup de personnes se sont vraiment énormément attelées à ce travail. Et pour qu'il soit non seulement cachère, mais pérenne aussi.
Ah, c'est les deux.
Qu'on ait le moins besoin
de vérifier.
D'ensuite d'avoir des soucis, mais vérifier. De toute façon, il est vérifié toutes les semaines.
D'accord.
On le vérifie toutes les semaines. Donc pour chaque Shabbat, il est vérifié. Et effectivement, grâce à Dieu, il est aujourd'hui vraiment. Il a été énormément amélioré dans tous les sens du terme.
Mmh.
Et voilà, pour permettre à la ville de Strasbourg de pouvoir bénéficier d'un service qui est, je pense, qui est capital pour notre ville et qui est un plus pour la communauté de Strasbourg.
Donc pour les fêtes, c'est bon.
Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hashem. Chaque Shabbat, je prie que voilà, Bezrat Hashem, que ça soit pour le Shabbat prochain
bon,
aussi. Parce qu'on le vérifie chaque semaine et il
d'accord.
faut pas que, voilà, il faut qu'un.
Pour l'instant, ça va.
Et Baruch Hashem.
D'accord. Alors, on a vu dans le Shabbat Shalom de la semaine dernière une sorte de contrat que vous avez signé. Alors, je sais que c'est un peu compliqué. Appelle le Prozboul.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que moi aussi, je dois me signaler pour faire partie de ce contrat?
Alors, c'est vrai que Prozboul, c'est un nom un peu barbare, comme
ouais.
ça a l'air assez compliqué, mais c'est simple, c'est extrêmement simple. Vous allez voir que c'est extrêmement simple. Alors, cette année, comme vous le savez, c'est une année de Shemitah. Hein, c'est une année sabbatique. Shemitah veut dire, la traduction exacte du mot, veut dire se détacher, se retirer. Alors, on se retire à deux niveaux. D'abord, en Israël, un agriculteur va se retirer de sa terre. Pendant un an, la terre sera mise en jachère. Et c'est le Shabbat d'Hachem. On montre ainsi que la terre, elle ne nous appartient pas. La terre, elle appartient à Hachem, qui nous l'a donnée pour pouvoir y appliquer les règles de la Torah.
La Shemitah, c'est tous les 7 ans.
Et donc, une fois par an, la terre observe un Shabbat.
D'accord.
De la manière que nous, on observe un Shabbat un jour par semaine, tous les 7 jours.
Oui.
Eh bien, la terre, elle observe un Shabbat tous les 7 ans.
D'accord.
Et de là découlent toutes les règles de la Shemitah. Ça, c'est
un élément.
Donc, une part de la mitzvah de la Shemitah. Il y a un deuxième volet, on va dire. C'est ce qu'on appelle Shemitat Ksafim, qui veut dire se retirer au niveau financier. Donc il y a au niveau agricole, Shemitat Karkaot, ça s'appelle. On se retire de ses terres agricoles. Et il y a ce qu'on appelle Shemitat Ksafim, qui est donc le thème qui nous intéresse là, aujourd'hui.
Le principe.
C'est-à-dire, la Torah dit, dans le Deutéronome, dans la paracha de Réé,
qu'on a lu il y a
que, exactement, vous êtes devant Ashmita, Shamot kol baal maché yadu haché yaché bereheu, lo igos et reheu vetachiv kikara Shemitah l'Hashem.
Vous allez traduire?
Tout homme, j'ai traduit, tout homme doit se retirer des dettes qu'on lui doit, donc des créances, par rapport à son prochain, par rapport à son frère, parce qu'est venue l'année de Shemitah, de se retirer.
C'est-à-dire,
on se retire de ses dettes, c'est-à-dire...
Si je vous prête 100 euros...
Si Monsieur Réhouven doit 1000 euros à Shimon,
ouais.
à Monsieur Shimon,
ouais.
et que cette créance est arrivée à échéance avant la fin de la Shemitah, avant la fin de cette année shabbatique,
d'accord.
cette créance est annulée au bout de l'année, quand arrivera... Rosh Hashanah de l'année suivante, la dette est
effacée.
Ça, c'est la règle de base de ce qu'on appelle Shemitat Ksafim, se retirer des dettes.
Mais c'est
la Torah elle-même dans ce passage-là, elle a fait la remarque en disant, je ne veux pas le dire en hébreu, bon, on va le dire directement en français.
Ouais, allez-y.
Fais attention, de peur que tu aies une pensée malhonnête, en te disant, voilà, l'année de Shemitah arrive, la septième année, l'année sabbatique.
Je vais faire un prêt.
Donc moi, je ne vais pas prêter de l'argent, parce que si je prête de l'argent,
je vais être...
eh bien, je vais perdre, voilà, je vais perdre cet argent, puisqu'au bout de la Shemitah, la dette sera annulée. Et donc, tu ne vas pas prêter aux pauvres. Tu ne vas pas, tu vas pas prêter, tu vas être avare, et tu ne vas pas prêter aux pauvres. Et le pauvre, je traduis exactement les termes du verset, hein. Et le pauvre va lever ses yeux vers le ciel, et, hein, à Dieu ne plaise, tu auras fait une grave faute de ne pas avoir prêté aux pauvres. Alors, la Torah elle-même s'est rendue compte que ça peut amener après quelques travers. C'est que les gens ne voudront plus prêter.
D'accord.
Bon, alors, s'ils ne prêtent pas aux riches, ce n'est pas grave. Mais s'ils ne prêtent pas aux pauvres, ça, c'est beaucoup plus grave.
Exact.
Et donc, la Torah, et donc les Rahamim eux-mêmes se sont penchés sur le problème. Nos sages se sont penchés sur ce problème-là en disant, voilà, les gens ne vont plus prêter aux pauvres. Il y a des gens qui n'ont rien à manger parce que personne ne va leur prêter d'argent. Alors, nos sages ont dit comme ça. Ça, c'est basé déjà sur ce que la Torah dit.
D'accord.
Nos sages ont dit que le verset dit « Un homme ne doit pas, au bout de l'année de Shemitah, au bout de la septième année, un homme n'a pas le droit d'aller réclamer son argent chez son prochain et son frère. » Comme ça, c'est écrit. Le prochain et le frère.
D'accord.
Ça, c'est pour un particulier.
Ouais.
Pour un particulier, M. Reuven, pour lui, Shimon, c'est son prochain, voire son frère. Par contre, un Beit Din, donc un tribunal rabbinique, qui lui n'est pas un particulier, qui lui est une institution. Donc lui, le particulier juif n'est pas son prochain ou son frère. Puisque lui, c'est une institution par rapport à un particulier. Donc, un Beit Din, un tribunal rabbinique, a le droit de réclamer...
le dû.
Le dû. Ça, c'est une règle de la Torah.
D'accord.
Et donc, ce qu'on peut faire, et ça, c'est ce qui était au départ ce qu'on a proposé de faire, c'est que tous les contrats de créance que l'on a, on les dépose au Beit Din.
D'accord.
Et le Beit Din se charge, lui,
de récupérer les...
Et donc, à ce moment-là, à partir du moment où c'est le Beit Din, tribunal rabbinique,
ça ne pose plus de problème.
Mais même ça, c'était compliqué. Tout le monde doit aller déposer. D'abord, il y a des fois des dettes qui ne sont pas écrites, qui sont orales. Toutes les dettes ne sont pas écrites. Ensuite, le Beit Din, il va se retrouver avec une montagne de
documents.
Et c'était devenu impossible. Est venu Hillel l'ancien.
Oui, Hillel Zakaï.
Donc le compagnon de Shammai.
Oui.
Au temps du deuxième temple.
Oui.
Donc, il a dit comme ça. Ça pose quand même problème. Les gens ne veulent plus prêter aux pauvres parce que c'est trop compliqué. On va simplifier. Comment on va simplifier? Une personne, avant la fin de l'année sabbatique, va aller au Beit Din et va dire, voilà, messieurs les Dayanim, messieurs les Dayan, un tel et un tel, puisque dans un Beit Din, il y en a trois, je fais état, je vous transmets le fait que je puisse aller récupérer mes dettes. Et donc, quand je récupère mes dettes, c'est en votre nom.
D'accord.
Donc, sans avoir besoin de venir avec sa liasse de contrat de créance
documents,
et de les donner au Beit Din. Il suffit de dire une phrase.
Oui, et cette phrase boule.
Je dis cette phrase, en hébreu, qu'on peut dire aussi en français, devant Beit Din. Et à ce moment-là, quand après je vais aller récupérer mes dettes, c'est plus en mon nom propre,
mais
c'est avec... autorisation du Beit Din, donc c'est comme si je l'ai récupéré au nom du Beit Din, et donc je peux récupérer l'ensemble de mes dettes. Et c'est ça qu'on appelle le prosboul.
Donc c'est la...
prosboul, c'est-à-dire un mot, on va dire, compliqué, qui veut en vérité dire que c'est une institution qu'on a fait pour les riches et les pauvres. C'est-à-dire pour que le riche puisse récupérer la dette qu'il a contractée, enfin la créance qu'il a contractée à un pauvre. Alors, et que les riches puissent prêter aux pauvres et que les pauvres puissent emprunter des riches.
Alors, le Prince
Boule. Tout au départ, c'était uniquement, c'était fait pour que, voilà, pour que l'on n'oublie pas de prêter aux pauvres.
Alors,
mais de là, c'est venu que, dorénavant, à partir de cette époque de Hillel,
oui.
il suffit d'aller au Beit Din, de dire cette phrase devant le Beit Din, et ensuite le Beit Din remplit un acte pour prouver que j'ai dit cette phrase, parce que sinon après, je vais aller, moi, récupérer mes créances, et puis l'autre, il va dire, mais attends, tu me dis que tu as fait un Prince Boule. Peut-être t'as pas fait. Si t'as pas fait, j'ai pas le droit.
Alors, c'est quoi
Tu n'as pas le droit de venir me réclamer, et moi, j'ai pas le droit.
C'est quoi le principe? C'est d'aller
Donc, il faut qu'il vienne au Beit Din.
D'accord.
Voilà. Alors, donc, le principe, il est... Après, on va en arriver à ce qu'on peut faire dans l'époque post-moderne, où nous sommes en 2020.
Oui, mais très vite.
Disons, le principe, il est... Le principe, il est qu'on vient devant le Beit Din, qu'on dit cette phrase, et que le Beit Din va remplir ensuite un acte dans lequel il va attester que l'on a accompli cette obligation de Prince Boule. Et donc, ainsi, avec ce papier, je peux aller récupérer toutes les créances que l'on me doit. Aujourd'hui, à l'âge post-Covid, on a même... on a modernisé encore la possibilité, mais ça existait déjà avant. C'est que, au lieu de venir dire devant le Beit Din, une personne qui est dans une ville où il n'y a pas de Beit Din, comment il fait Quelqu'un, il habite à 500 km d'un Beit Din, comment il va faire, lui? Il y a une possibilité qui existe déjà depuis des dizaines, des centaines d'années, qui est permise, c'est d'envoyer par écrit au Beit Din cette phrase en la signant, disons voilà, je vous transmets l'ensemble de mes créances et que je puisse les récupérer.
D'accord.
Donc on envoie ça au Beit Din et le Beit Din le reçoit. Il faut que ce soit écrit avant Rosh Hashanah, bien sûr.
Ouais.
Il faut que le Beit Din le reçoive avant Rosh Hashanah et qu'il puisse ensuite attester que le Prince Boule a été fait.
D'accord.
Aujourd'hui, c'est plus simple. Aujourd'hui, avec l'Internet,
il y a juste à
on peut faire ça en ligne.
Ouais.
Aujourd'hui, vous cliquez, on a envoyé dans le dernier Shabbat Shalom, on a envoyé un lien, vous cliquez sur ce lien-là, enfin, vous faites même un, comment on appelle ça,
un QR code.
Un QR code, voilà, j'ai cherché le mot. Un QR code, il vous suffit de prendre une photo, de scanner le QR code, vous avez immédiatement le formulaire.
D'accord.
Il vous suffit de remplir votre nom, prénom, numéro de téléphone.
Ok.
Et de signer en dessous. Le texte du Prince Boule, il est déjà écrit. Donc, vous n'avez pas besoin de l'écrire. Il vous suffit de remplir les cases, votre nom, votre prénom, pour qu'on sache qui c'est qui l'a fait. Vous l'envoyez et c'est fait. En moins d'une minute, vous l'avez fait.
D'accord.
En moins d'une minute. Nous, on le reçoit. Donc, ça doit être fait avant jeudi 15h.
Oui, mais l'émission sera diffusée.
Et nous, on va le recevoir. Voilà. Ouais, mais ça dure une minute, même pas une minute.
Okay.
C'est rien. C'est hyper rapide. Nous, on le reçoit. Nous, on signera en dessous. Et ensuite, la personne, si elle a besoin d'attester, elle peut venir chercher son document.
D'accord.
Donc, c'est vraiment quelque chose de très simple. Nos chachamim ont voulu, nos sages ont voulu simplifier. Parce que les gens, ils me disent, c'est trop simple.
Oui, mais à leur époque, il n'y avait pas Internet.
C'est trop simple.
D'accord.
Non, c'est trop simple. Nos chachamim, nos sages ont voulu simplifier pour qu'on puisse continuer à prêter. Et surtout, prêter entre différents particuliers, mais surtout prêter aux pauvres. Mmh. C'est ça qui était en vérité, c'était ça le problème crucial. C'est que les pauvres puissent continuer à survivre en empruntant de l'argent. Et donc, qu'on puisse continuer à prêter, qu'on puisse continuer à recouvrer nos dettes en simplement accomplissant ce Prince Boule qui est vraiment une démarche ultra simple. Déjà au départ, elle était ultra simple. Il suffisait de venir devant le Beit Din et de le dire. Aujourd'hui, on a simplifié encore. Vous pouvez le faire en ligne. En une minute, c'est fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut chaque personne à qui l'on doit de l'argent, ou il ne se rappelle plus, peut-être qu'on lui doit de l'argent, il a oublié.
Oui, alors.
Eh bien, qu'il remplisse
le Prince Boule.
Ce formulaire, ce Prince Boule.
D'accord.
Et après, nous, on s'occupe de le signer. Et il n'a plus de problème.
D'accord.
Il n'a pas enfreint un interdit grave de la Torah. Et il a accompli une mitzvah. Parce que ça lui permet de continuer à prêter de l'argent aux gens et de faire bénéficier les pauvres de l'argent qu'il a.
On va avancer, Razman. Pour parler des fêtes, il y a trois grosses fêtes Il y a Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. Dans les jours de Yom Tov, y a-t-il des règles qui sont valables aux trois fêtes ?
Alors, effectivement, il y a les règles de Yom Tov. Rosh Hashanah, c'est un Yom Tov, c'est un jour de fête.
Ouais.
Kippour, c'est un jour de fête, mais dont les règles s'apparentent aux règles du Shabbat.
D'accord. C'est ça, c'est quoi le genre ?
Et Sukkot, ben, il y a les deux jours de fête, ensuite suivi de jours de demi-fête, suivi ensuite de deux jours de fête. Je parle en dehors d'Israël.
Ouais.
En Israël, c'est un jour de fête, suivi de six jours de demi-fête, suivi de un jour de fête. Et en dehors d'Israël, c'est deux jours de fête, suivi de cinq jours de demi-fête, suivi de deux jours de fête. Il y a des différences entre les règles, les interdits qui s'appliquent au Shabbat et au jour de Kippour, puisque Kippour est appelé Shabbat du Shabbat. Shabbat. Donc,
ouais.
Les règles, les interdits de Kippour sont les mêmes que les interdits du Shabbat. Et en plus, il y a les interdits de Kippour spécifiques, de ne pas manger,
de ne pas boire,
etc.
D'accord.
Donc, mais pour ce qui est des interdits, des travaux interdits, les règles de Kippour sont les mêmes que les règles du Shabbat.
Pour les Chagim, les Yom Tov, c'est pas pareil.
Par contre, pour les jours de fête, c'est différent. Les jours de fête, par exemple, on autorise principalement ce qui est nécessaire pour la nourriture, pour la préparation de la nourriture. Mmh. On a le droit de cuire, de cuisiner, Yom Tov, jour de fête. Si on allume un feu, il faut l'allumer à partir d'un feu existant, parce qu'on ne doit pas créer un feu.
Mais comment on l'éteint ?
Bah, vous laissez une petite bougie.
Non, mais comment on éteint après, quand on allume ?
Ah non, on ne peut pas l'éteindre. Éteindre, on ne peut pas.
Voilà.
On peut l'allumer, mais on ne peut pas l'éteindre.
Bah, vu le prix de l'énergie, à mon avis...
Vu le prix du gaz, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. C'est vrai. Et puis bon, alors après, on pourrait mettre sur minuterie, mais le gaz, on ne peut pas le mettre sur minuterie.
Non, la plata.
L'électrique, oui. L'électrique, on pourrait le mettre sur minuterie.
Mmh.
Donc, on peut l'allumer et éteindre sur minuterie.
D'accord.
Ça, c'est possible, ça, c'est faisable. Et on peut cuire Yom Tov, cuisiner Yom Tov. On peut pétrir une pâte Yom Tov.
Ah bon ?
Il y a certaines règles qui sont permises Yom Tov, qui sont interdites. Yom Tov, ça veut dire jour de fête. Hein.
Ouais.
Yom Tov, jour de fête, c'est permis, certaines règles. On peut porter Yom Tov, même dans un endroit où il n'y a pas de...
Hérouve.
Par contre, Yom Kippour, non.
Ouais.
Yom Kippour, on aura... c'est comme Shabbat. Yom Kippour, on ne peut pas porter.
Dans un même les gens qui portent
dans
d'habitude.
Dans un endroit où il n'y a pas de hérouve.
À Strasbourg, il n'y a pas de problème.
Moi, je ne parle pas de Strasbourg, voilà. Je parle d'un endroit. Ben, là, nous, on parle pour tout le monde. On a la chance à Strasbourg, qu'il n'est pas valable dans, dans tout le reste de la France. Mais en tout cas, on ne peut pas porter Yom Kippour dans un endroit où il n'y a pas de hérouf. Mais Yom Tov, on a le droit.
D'accord.
Donc, il y a quand même certaines... Mais sinon, l'ensemble des travaux,
interdit,
comme écrire,
ouais,
comme allumer la lumière, comme prendre la voiture,
c'est interdit,
etc., ça, c'est interdit. Yom Tov, comme Shabbat.
D'accord.
Jour de fête, exactement comme Shabbat. C'est-à-dire, disons, sur une très grande majorité des travaux, Yom Tov et Shabbat sont au même niveau. Il y a quand même certains points sur lesquels il y a des permissions.
Bon, principalement pour Yom Tov, pour
qui n'existent pas pour Shabbat, ni pour Kippour.
D'accord. On a donc trois fêtes, je l'ai dit, on va commencer par Rosh Hashanah. C'est quoi la mitzvah principale de Rosh Hashanah ? Si il faut que je fasse une chose, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?
Alors, concernant Rosh Hashanah, il y a bien sûr la mitzvah particulière de la fête qui est d'écouter le shofar.
Mmh.
C'est une obligation. Elle incombe aux hommes. Pour les femmes, c'est pas une obligation comme pour les hommes, mais c'est l'habitude que les femmes écoutent le shofar malgré tout.
D'accord.
C'est une habitude qu'elles ont prise sur elles-mêmes.
Mmh.
Les femmes ont toujours voulu aller de l'avant et vouloir prendre encore d'autres choses qui n'étaient pas obligatoires, même qu'elles n'ont pas l'obligation. En général, sur les lois des fêtes, enfin les mitzvot spécifiques aux fêtes, il y a quand même certaines règles, certaines obligations qui n'incombent qu'aux hommes et pas aux femmes.
Mmh.
Je veux parler, par exemple, du chauffard, de la soukha et du loulav. Donc, puisqu'on parle ici des fêtes de Tichri, ces mitzvot ne sont pas obligatoires pour les femmes, même si les femmes ont pris l'habitude de les accomplir. Et lorsqu'une femme les accomplit, elle accomplit une mitzvah, elle accomplit un commandement d'Hachem. Mais ce n'est pas un commandement qui est absolument obligatoire, comme pour un homme.
D'accord.
En vérité, la raison qui est donnée est que les femmes ne sont pas astreintes aux commandements positifs qui sont liés au temps.
D'accord.
Or, le chauffard, la souka, le loulav sont des commandements positifs qui sont liés au temps, puisqu'on les fait à une date
précise.
Précise. Mais en vérité, pour donner une raison un peu plus générale, c'est que la femme, c'est la akeret habayit, c'est elle qui régit tout ce qui se trouve dans la maison. Elle vit déjà le Yom Tov, elle n'a pas besoin de tous ces commandements
contraignants.
En plus, pour sentir la sainteté de la fête.
D'accord.
C'est elle qui prépare la fête depuis des semaines. Hein, les femmes, elles préparent les fêtes depuis très longtemps avant la fête. C'est elle qui prépare toute la fête. C'est elle qui va préparer la maison. C'est elle qui va préparer les repas. C'est en vérité, elle est déjà dans la sainteté de la fête sans avoir besoin de mitzvot spécifiques pour elle. Alors que l'homme, lui, non. L'homme, il va vaquer à d'autres occupations, d'accord, beaucoup moins que la femme. Hein, et donc il a d'autres contraintes et d'autres devoirs qui font que malheureusement lorsqu'il arrive à la fête il peut parfois ne pas être dans l'atmosphère
de la fête
autant que la femme s'y trouve.
Alors,
et donc la Torah nous a donné des règles, des mitzvot, des commandements spécifiques et qui sont obligatoires pour les hommes, même si les femmes n'ont pas cette obligation. Les femmes le font quand même,
oui,
mais c'est pas une obligation comme pour un homme. C'est-à-dire que si, par exemple, une femme est dans un cas de force majeure, etc., on sera beaucoup plus coulant, permissif que pour un homme. Bien sûr, puisque pour un homme, c'est quand même une obligation. Et donc, l'homme, il a, ses obligations.
Par contre,
l'obligation de prier,
la
prière, là, elle incombe à tous. Elle incombe aux hommes, elle incombe aux femmes.
D'accord.
D'être là, d'être à la synagogue, de participer aux prières. Rosh Hashanah, c'est un jour de prière.
Alors,
c'est un jour de fête aussi.
Oui.
C'est pas parce qu'on dit toujours les jours austères. On appelle ça Rosh Hashanah Kippour. On appelle ça les jours austères.
Oui.
Yamim Noraim. Yamim Noraim, les jours austères.
D'accord.
Mais bien qu'étant un jour austère, c'est-à-dire un jour qui est imprégné d'une grande, d'un grand sérieux, hein, parce que c'est quand même des jours de jugement, c'est des jours de fête. On fait un repas de fête.
Ah oui.
À Kippour, on va pas faire de repas de fête, bien sûr.
C'est le soir.
On va pas manger.
À la fin.
Mais on va faire un repas de fête avant Kippour. Et on va faire un repas de fête après Kippour. Parce que Kippour en soi, c'est une fête.
Alors, justement.
Ça reste une fête. Une fête qui est imprégnée, bien sûr, d'une sainteté particulière, d'un respect, d'un sérieux particulier, mais qui reste un moment de joie.
D'accord. Alors, on a parlé de Rosh Hashanah, on a dit le chauffard. À Kippour, qu'est-ce que je dois faire absolument?
Qui pour l'obligation de jeûner incombe à tous.
Ouais.
Tout juif de
13 ans.
L'âge de 13 ans révolu pour un garçon ou de 12 ans révolu pour une fille.
Ouais.
À partir de bar mitzvah, de bat mitzvah, c'est une obligation pour tout le monde.
Jusqu'à la fin.
Jusqu'à la fin.
D'accord.
24 heures. Plus de 24 heures, puisque ça commence au coucher du soleil, ou quelques minutes avant le coucher du soleil,
d'accord,
même, et ça se termine à la sortie des étoiles.
Donc jeûner, c'est
grosso modo 25 heures.
D'accord.
Donc, et ça, c'est une obligation pour tout le monde. Il n'y a qu'une personne qui sera en danger vital si elle jeûne.
C'est-à-dire quoi, danger vital?
C'est-à-dire une personne que si elle ne mange pas, une personne qui, si elle ne mange pas, elle a un risque pour sa vie.
Oui.
Elle pourrait en mourir, peut-être.
Ouais. Ça, elle a le droit.
Eh bien, cette personne-là a le droit de manger, selon des termes spécifiques. Il faudrait qu'elle en parle avec son rabbin, qu'elle en parle avec son médecin, qu'elle en parle avec son rabbin, pour lui donner les règles précises, parce que même quand on permet de manger, on demande on va pas rentrer dans tous les détails, bien sûr,
mais on
demande de manger par petite dose, espacée, si c'est possible. Si possible, parce que des fois c'est impossible. Des fois il y a une personne, elle est dans une situation où elle est obligée de manger
correctement.
Une personne qui, qui va faire une crise, peut-être d'hypoglycémie ou autre chose, et qui vraiment est dans une situation où si on ne lui donne pas immédiatement à manger, elle pourrait vraiment être en très 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 grave danger. Donc il y a des fois où on ne peut pas demander.
On ne va pas demander
de manger par petite quantité. Mais pour une personne qui est obligée de manger parce qu'elle est en danger, sinon, on demande de manger par petite quantité.
D'accord.
Il faut voir ça avec son rabbin et avec son médecin également.
D'accord.
Il faut voir les deux. Il faut que le médecin puisse attester que véritablement jeûner serait un danger vital pour la personne. Et ensuite, il faut voir avec le rabbin pour lui donner les règles précises comment il va manger le jour de Kippour.
Rapidement, Soukhot, pareille question, qu'est-ce qui est important pour...
Sur un Soukhot, il y a la mitzvah de la soukha.
Ouais.
De manger dans la soukha.
Dormir aussi.
Dormir, oui. Dormir, si c'est possible. Parce que c'est vrai que dans nos pays, qui sont des pays froids...
Ouais, c'est compliqué des fois.
C'est pas toujours. Il y a des gens qui supportent pas le froid. Une personne qui, pour qui c'est une souffrance...
Ouais.
Elle n'a pas l'obligation.
Ah bon.
Mais sinon, une personne qui
bien importante, qui
supporte très bien même le D'accord. froid, il a l'obligation de manger, de vivre dans cette soukha. Parce que par soukhot, tes joues, vous devrez habiter dans la soukha.
D'accord.
Donc on habite comme on habite chez soi à la maison. On mange, on dort, hein.
On étudie.
Des fois, on sort pour vaquer à ses occupations. Alors dans la soukha, c'est pareil. On mange, on dort et on sort parfois pour vaquer à ses occupations, pour aller à la choule, ou pour vaquer aux occupations dont on a besoin. Mais sinon, les repas doivent être pris dans la soukha. Si possible, dormir dans la soukha.
Quand on peut.
Voilà, en Israël, c'est pas un problème. Ouais. C'est vraiment le climat s'y prête tout à fait.
Tropical.
Mais bon, cette période, en fin septembre, c'est très doux, c'est bon. Donc, manger, dormir dans la soukha pour accomplir la mitzvah.
Avant d'écouter vos vœux pour la communauté, comment ça se passe pour votre synagogue ? Il y a 2 ans, vous avez prié à l'Orte. Cette année, vous ne bougez pas.
Oui, bon, c'est que les 2 dernières années, on a été contraints par les circonstances de l'épidémie.
Oui.
Il fallait respecter une certaine distance entre les personnes. Et donc, notre choule, elle est relativement... exiguë, hein, petite, et donc elle ne permettait pas de se plier aux règles qui étaient imposées par les circonstances.
D'accord, cette année,
et par l'État. Et donc c'est pourquoi on a déménagé pour Rosh Hashanah et Kippour. On a fait dans la. Et l'Orte était extrêmement gentil avec nous,
ouais.
de nous permettre de faire
Rosh Hashanah
et Kippour. Cette année, vu la situation qui s'est beaucoup améliorée, on va rester dans notre choule. on va faire Rosh Hashanah et Kippour dans notre choule. Il y a suffisamment de place pour les gens, les fidèles, les gens qui viennent pour Rosh Hashanah et Kippour. Hors circonstances, qui on espère qu'elles ne reviendront plus jamais, eh bien, on va passer Rosh Hashanah et Kippour chez nous dans notre choule.
Rav Zalman, vous êtes le Dayan de la ville de Strasbourg et du Bas-Rhin. Quel message vous avez envie de donner ? C'est quoi vos vœux pour cette nouvelle année ?
Écoutez, mes vœux pour la nouvelle année, d'abord, c'est que, en premier lieu, on doit penser aux personnes qui sont malades, aux personnes qui sont isolées. Qu'un jour fasse que les personnes qui sont malades, qu'elles puissent recouvrer leur santé.
Amen.
Et que les personnes qui sont isolées puissent, malheureusement isolées par la maladie ou isolées par toutes sortes de problèmes qui ont pu arriver, qu'elles puissent pouvoir communiquer et partager avec tout le monde. Que ce soit une année de joie. C'est une année qui s'annonce parfois difficile. Économiquement parlant, c'est une année qui s'annonce assez difficile. Et la dernière Mishnah de Sota dit que avant la venue du Messie, les prix vont augmenter.
Ah ouais ?
Très, très, très fort.
Alors, c'est bientôt le Messie.
Alors, peut-être que c'est un signe. C'est un signe pour nous que parfois, on doit passer par des difficultés pour qu'ensuite... on reçoive la bracha.
Amen.
Nous espérons que ces difficultés, toute la communauté puisse les passer facilement et que penser aux gens qui sont vraiment dans la difficulté économique et qui, dans cette période-là, on espère qu'ils ne vont pas ressentir trop fortement cette crise et que l'ensemble de la communauté et de la ville et de tout le pays, de l'humanité même, parce que c'est quelque chose qui est planétaire, eh bien, puisse passer cette crise facilement, que Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, nous inscrive dans le livre de la vie,
Amen.
Chaim Tovim, une vie joyeuse, une vie de joie, une vie de smachot, une vie où on puisse profiter de chacun, de sa famille, des gens qui sont autour de lui, de penser aux autres, de penser à ceux qui sont autour de lui, et que parfois on ferme les yeux et qu'on ne voit pas, et qu'on ne voit pas la détresse, qu'on puisse ouvrir nos yeux aux autres. En ouvrant nos yeux aux autres, eh bien, Akadosh Baruch Hu lui-même, il ouvrira ses yeux vers nous, et il nous jugera avec clémence,
Amen.
Et nous apportera une année de joie, et une bracha toute spéciale, pour Radio Judaïka.
Merci beaucoup.
Pour cette année.
Merci beaucoup.
Voilà. Et pour l'ensemble de la communauté, pour cette année 5783.
Merci, monsieur le Dayan, Mikael Merla. Bonne année à vous. Shana Tova. Et à bientôt alors à la radio, puisque vous avez fait une bracha.
À très bientôt.
Merci beaucoup. Amen.